Les coqs chantent le jour pareil, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des activités du cadre intégré renforcé au Mali. Ce cadre intégré renforcé a été établi en 1997 à l'OMC et a été révisé en 2005. Ses missions consistent à lutter contre la pauvreté dans le milieu rural. Selon le langage des spécialistes, le cadre intégré renforcé est un programme multidonateur qui fournit actuellement une aide à 51 pays figurant parmi les plus pauvres du monde, dont 25 en Afrique, Angola, Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Djibouti, Érythrée, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Soudan, Sénégal, Sierra Leone, Sud-Soudan, Tchad, Togo et Zambie. L'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé a été établie en 2005 avec un siège dans le quartier Niarela de la ville de Bamako. Dans ce pays, il s'agit principalement d'aider la chaîne de production des mangues ainsi que les secteurs de la commercialisation et de l'exportation. Un second volet concerne la gomme arabique et a été approuvé par le Conseil du cadre intégré renforcé en février 2012. Le dispositif national de transformation concerne d'autres secteurs d'activité comme les fruits et légumes, le beurre de karité. C'est au Salon international de l'agriculture de Paris, édition 2016, que nous rencontrons les différents acteurs de ces filières. La première que nous reçoit se nomme Paulette Rabi Agne, chargée de production pour la coopérative de transformation du fruit de Nyanfolila, une coopérative qui regroupe une centaine de femmes.
C'est le cercle de Nyanfolila qui se trouve dans la région de Sikasso, à 240 km de Bamako.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'on cultive là-bas?
Il y a surtout des vergers, de mangue, d'orange, il y a de la goyave, il y a presque toutes les spéculations, quoi. Et c'est pourquoi nous sommes implantés dans la zone.
C'est-à-dire qu'au début, elle faisait des confitures, elle faisait des mangues séchées.
Elle faisait des mangues séchées, elle faisait des croquettes. Bon, maintenant, on les a canalisées sur la confiturerie.
Rien que la confiture?
Rien que de la confiture. Mais au niveau de leur petite unité, bon, elles continuent à faire ce qu'elles faisaient quand nous ne sommes pas en production.
Mais qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'elles font actuellement?
Ce qui est nouveau, c'est le matériel, le local, les emballages et il y a un encadrement technique.
Vous pouvez nous montrer les produits là?
Voilà. Vous avez ici la confiture de mangue. Hein? Voilà.
Alors, vous vendez vos produits à qui?
Bon, sur le marché local à Bamako, au niveau des hôtels, au niveau des alimentations. Bon, pour le moment, en Europe, nous n'avons pas encore trouvé de distributeur. C'est ce que nous cherchons.
Bon, est-ce que ce travail-là, ça a changé la vie des 100 femmes de votre coopérative?
Ça a bien changé la vie des femmes. Parce que d'abord, elles ont ouvert toutes les comptes au niveau de la BIM où leur salaire est viré. Bon, il y en a qui ont acheté des terrains, il y en a qui ont construit, il y en a qui ont changé leur intérieur. Et vraiment, on sent qu'il y a eu des changements. Et certains maris même nous disent par rapport à l'hygiène même. Hein? Bon, ça s'est répercuté chez elles.
À la maison?
À la maison.
Merci madame.
C'est moi qui vous remercie.
Mali, plusieurs acteurs participent activement à la commercialisation de la mangue et des institutions également participent à la promotion de la qualité des exportations. Il y a d'abord les organisations de producteurs, les groupements des intermédiaires, les transitaires qui sont chargés de régler les modalités administratives d'exportation et qui servent d'intermédiaires entre les autorités administratives et les exportateurs et 13 sociétés exportatrices. Et l'encadrement du système renforcé intégré concerne tous les maillons de la filière mangue. Drissa Traoré, planteur dans le village de Mandela, est président du réseau des producteurs de plants certifiés de manguiers du Sikasso.
Bon, au Mali aujourd'hui, nous avons 3 bassins de production de mangue. Le bassin de Bamako, le bassin de Kulikoro et le bassin de Sigasso.
Comment s'est organisé les producteurs de mangue au Mali? Est-ce qu'il y a des coopératives?
On a une interproduction qui est IFM, interproduction de fleurs mangue du Mali, qui est composée de 5 familles. La famille des pépiniéristes, la famille des producteurs, la famille des pisseurs, la famille des transformateurs et la famille des exportateurs. Ça fait les 5 familles.
Qu'est-ce que le cadre intégré renforcé a fait pour vous?
Le cadre renforcé a commencé à faire le traitement des mangues pour donner la qualité depuis 2005. C'était pour lutter contre la mouche des fruits. Bon, et puis encore, il y a la cochinée farineuse qui est sous forme de champion qui empêche la végétation, même la floraison des mangues.
C'est ce qui s'attaque les fleurs.
Mais ça s'attaque les fleurs. Et si ça empêche la végétation, les fleurs.
Donc avant, vous ne saviez pas traiter ça, combattre ces 3 fléaux-là?
Non, on ne savait pas. On savait qu'au départ, avec le cadre d'intervention, avec l'appui de l'OPV, Office de protection végétale, qu'ils ont travaillé ensemble au départ. Aujourd'hui, on est en bonne voie. Le cadre intégré nous a équipés avec des appareils de traitement. Il y a des appareils à dos, à pression, et des appareils à machine pour faire un bon traitement. Dans la région de Sigasso, nous avons eu à peu près 500 machines.
Donc il y a d'abord la qualité du produit, l'hygiène.
Oui, la qualité du produit et le goût même. Et c'est que ça, l'enrichissement, mais il faut faire un bon produit, un produit fini qui est riche en vitamines que les gens doivent consommer.
Mais aujourd'hui, est-ce que ça va?
On a appris beaucoup de technologies, on a appris la taille de forme des arbres, la taille de fluctuation et l'entretien, les labours, les traitements, tout.
C'est quoi la taille de forme?
On taille un arbre pour lui donner une forme de récolte. Faut pas que l'arbre soit trop grand. Si tu donnes l'arbre de forme à une taille moyenne, tu peux arrêter et couper beaucoup de mangues. Les mangues ne tombent pas par terre. Tu peux avoir beaucoup de qualité en mangue. Bon, la taille de production maintenant, si l'arbre est trop grand, il faut le tailler pour que l'arbre soit aéré. Si l'arbre soit aéré, il fait beaucoup de floration et puis encore, ça donne la coloration. Ça, ça enverra la qualité.
Donc, quand moi je vois un arbre qui est gigantesque, qui a beaucoup de feuilles, c'est joli, mais c'est pas bon.
Tu sais que si l'arbre n'est pas très haut, il donne beaucoup de fruits. Tu t'arrêtes, tu fais le rond à tout, tu ne fais que couper tes fruits et les mettre dans le panier ou bien dans les cajoux.
Monsieur le transformateur?
Le producteur pisseur.
Ah, il est pisteur.
Il est pisteur, il est intermédiaire. On a en Bambara Kouaoulou, les fruits rouges quoi.
Voilà. D'accord. Donc il va nous parler de son travail. Mais vous allez me servir d'interprète?
Ouais, bon, il n'y a pas de problème.
Ok.
Notre pisteur se nomme Mamadou Diakité, membre de la coopérative des fournisseurs de Kulikoro. Ce sont des acteurs chargés de la collecte des mangues pour les exportateurs et qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les producteurs et les sociétés exportatrices.
À nous deux. Alors, on m'a dit qu'il est pisteur. C'est quoi le travail du pisteur?
Même mango ça fout le boulot. Quand l'arbre est dit exportateur montana et Europe, même mango tient ensemble.
Il achète avec les producteurs et les conditions pour venir vendre aux exportateurs. Et il vend ça avec les céréales.
Mais ça, c'est un commerçant. Pourquoi on les appelle les pisteurs?
Ouais, il dit que c'est un pisteur. Il sert de l'intermédiaire. C'est pour, comme je vous ai dit, il connaît les zones de production, il connaît les plantations, il connaît les vergers, il connaît où se trouve la qualité, telle et telle variété est précoce, n'est pas précoce. Il connaît toutes les zones tardives, les zones précoces. Donc, et c'est l'interface entre le producteur et l'exportateur.
Donc, il est tout le
temps sur la piste.
Il est tout le temps sur la piste.
Mais qu'est-ce que le cadre intégré a fait pour les pisteurs?
Il y a des formations sur les conditions de quête, des techniques de quête de la mangue, même les matériels, les casseaux, bon, avec ils font et les formations et tout pour avoir la qualité de la mangue.
Avant, ils travaillaient comment? Avant la formation?
Il dit
qu'avant ça, il travaillait purement à la manuelle. Il couvrait les mangues, ça tombait après, il avait des blessures, il avait moins de qualité. Il les prenait, il les transportait en vrac. Bon, dans les sous-traitements et les bâchers.
Dans les camionnettes.
Dans les camionnettes, il est transformé dans ça. Après, avec la formation, dans les techniques de coupe des mangues et les techniques de transport améliorées, il les met dans les casiers, il les coupe sans tomber pas, il les coupe souvent avec des filets. Si l'arbre est trop long, il étend les filets, les mangues coupent, ils tombent, sans tomber pas par terre. Donc maintenant, ils sont bien conditionnés maintenant. Donc eux ici, maintenant, après le conditionnement aux stations, ils ont beaucoup de qualité après le conditionnement. Il n'a plus beaucoup de déchets. Avant, il avait beaucoup de déchets. déchets. Maintenant, les déchets, c'est moins. Voilà.
Est-ce que tous les pisteurs de sa zone ont bénéficié de la formation?
Après, il dit
que dans leur association ou bien leur coopérative, il a 30 à 40 qui ont eu la formation des techniques de cuillère, de conditionnement et de la bonne marche de la filière.
On nous le forme.
Je lui dis merci.
Ouais, merci. Kenji.
Au revoir, merci.
Ok.
À présent, un produit emblématique, le beurre de karité. La superficie totale de la zone à karité est de 29 125 km² sur toute la bande sahélienne. Le peuplement de karité compte 74 millions de pieds. Or, 7 500 localités villageoises, soit 3 millions de femmes maliennes, sont directement impliquées dans la collecte des noix et la transformation en beurre et produits dérivés. Le karité procure 80% des revenus annuels pour les femmes. En réalité, il y a 135 000 tonnes de potentialité en beurre, dont 97 000 réellement exploitées et seulement 3 000 tonnes sont exportées. Badier Marico est directeur général de la société Sofa Agrobusiness.
Le Mali est le deuxième producteur de karité après le Nigeria. Mais malheureusement, le Mali est le quatrième exportateur de karité.
C'est-à-dire que la matière première est là, les gens travaillent, mais ce n'est pas valorisé.
Ce n'était pas du tout valorisé. Les grands commerçants venaient juste prendre nos amandes et ils partaient avec. Nous, on a vraiment mobilisé les femmes coopératives qui sont les productrices, les collectrices. Donc, elles nous donnent les amandes de bonne qualité et nous les transformons en beurre alimentaire, en beurre cosmétique et des sous-produits. Voilà.
De toute façon, ça ne m'étonne pas parce que quand un homme dit « je suis producteur », à la base, ce sont des femmes qui font le travail.
Ah, bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire que vous étiez un groupe de jeunes diplômés chômeurs, vous réunissez pour prendre le thé pour causer, et quelqu'un un jour a dit « il faut qu'on fasse quelque chose ».
Bien sûr. Et là, quand j'ai fait mon premier tour en 2006 en Italie, j'ai vu que ce que nous voyons à la télé, c'est pas du tout la réalité. Alors quand je suis rentré, j'ai dit aux jeunes frères, vous savez, notre richesse, c'est le beurre de karité, c'est le sumbala, c'est le truc. Essayons de le valoriser.
Est-ce qu'ils vous ont cru au début?
Au début, non, mais on me prenait pour un fou. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont construit leur villa à travers le beurre de karité et les produits locaux.
Il y a combien de personnel dans votre entreprise?
Il y a 16 emplois directs et 75 emplois indirects.
Expliquez-nous ces emplois indirects.
Les emplois indirects, c'est les femmes productrices qui viennent travailler à l'unité. Elles viennent avec les amandes. Elles nous vendent d'abord les amandes. Nous, on a un système de pressage du beurre.
Alors quand c'est une machine
manuelle. Une machine manuelle. On fait les pressages et les tourteaux et automatiquement retourner chez la bonne dame en combustible. Donc on n'a plus besoin avec ceux qui sont dans la filière karité d'aller couper encore du bois pour faire le chauffage. Non, les tourteaux de karité servent à faire le chauffage. Donc ces femmes-là, elles viennent travailler journalièrement chez nous. Elles nous vendent le beurre. Elles travaillent à l'unité moyennant 2000 francs par jour. Et les tourteaux, elles ramènent au village pour faire leur cuisine avec.
Qu'est-ce que le cadre intégré renforcé a fait pour vous?
Tout ce qui est manifestation commerciale, le cadre intégré nous accompagne dans ces grandes manifestations commerciales. À chaque année, le projet cadre intégré fait participer une quarantaine de femmes productrices depuis le village. On part dans les pays pour vraiment faire connaître nos savoir-faire et la qualité des amandes maliennes. Quand on fait des analyses chez nous, les produits qui viennent d'Europe, on dit, voilà des laits corporels à base du beurre de karité. Vous ne trouverez que 5%
de beurre de karité.
Alors nous, étant la zone la plus riche en matière de beurre, alors on a cherché la technologie. On fait maintenant du lait corporel avec 75% de beurre de karité. L'avantage, c'est qu'avec nos vieilles mamans, depuis dans les temps, elles faisaient la crème. La crème à base du beurre de karité.
Mais elle n'avait pas les mots scientifiques.
Malheureusement, mais aujourd'hui, vraiment, on est allé de zéro. Et aujourd'hui, vraiment, ça fait la fierté de nos... Et on nous appelle là-bas les jeunes pirates. On a une grand-mère qui me dit tout le temps, mais toi là, tu venais causer avec nous, tu prenais note. Mais je vois finalement que tu voulais me copier.
Et vous dites ça avec le sourire parce que ça rapporte de l'argent.
Ah, vraiment, ça nous fait nous rire.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Un un autre produit pour lequel le Mali a des atouts, la gomme arabique. En effet, le Mali a sur son sol d'importants peuplements répartis en deux zones. Mais la filière connaît des contraintes importantes, liées notamment aux coupes abusives de l'acacia, aux besoins en eau pour l'entretien des pépinières et des plantations, du problème de gestion de la qualité des unités de transformation et du problème du foncier. Omar Bala Sissoko est le président des producteurs de gomme arabique de la région de Kaï.
La technique traditionnelle consistait à blesser l'arbre avec des hachettes et laisser pendant une ou deux semaines et récupérer la résine. Quand c'est sec, ça se solidifie et on vient prendre.
Non seulement on ne produit pas beaucoup, mais en plus on peut tuer l'arbre.
On peut tuer l'arbre, oui.
Et c'est pour ça que vous avez décidé d'innover.
D'innover, effectivement. Les innovations, c'est un outil que nous avons importé d'un autre pays. Le Soudan, c'est l'outil qu'on appelle le sunki. Ça permet d'enlever l'écorce sans toucher au bois. Et là, ça permet une plus grande sécrétion. Et puis, ça protège vraiment l'arbre.
À quoi sert la gomme arabique? Parce que vous m'avez montré ça sur les stands, mais bon, nous, quand on était jeunes, c'était des bonbons, c'est tout.
Mais pas seulement des bonbons, c'est un émulsifiant qui permet vraiment de faire les boissons gazeuses, parce que la gomme arabique, elle n'est pas soluble dans l'alcool. Les boissons gazeuses, la pharmacie et l'alimentation, c'est multifonctionnel.
Il y a beaucoup d'usages.
Beaucoup d'usages.
Mais là, c'est un produit précieux, là.
C'est un produit très précieux parce que l'offre n'a jamais couvert la demande depuis la nuit des temps.
Vous n'êtes jamais arrivé à satisfaire la demande?
Jamais, parce qu'il n'y a pas de produit de substitution à la gomme. En fait, il n'y a pas de produit de substitution.
Si j'ai bien compris votre problème, vous avez un produit qui est très demandé.
Oui.
Vous avez l'écosystème pour le faire.
Oui.
Vous avez la main d'œuvre pour le faire.
Oui.
Maintenant, il faut quand même valoriser ça.
Valoriser ça, organiser mieux les acteurs et puis les appuyer un peu pour vraiment arriver à faire des offres de qualité et de quantité sur le marché.
Qu'est-ce que le cadre intégré renforcé a fait pour vous?
C'est le cadre intégré renforcé qui est en train de nous organiser. C'est le cadre intégré qui s'occupe de ça, qui nous organise, qui nous appuie, qui nous aide et qui m'a amené ici aujourd'hui, qui a payé les voyages pour parler de ça aujourd'hui.
Donc, dans un premier temps, on vous a organisé. Oui. Comment ça s'est passé?
Chez moi, il y a 35 coopératives que le cadre intégré a fait. Et puis, nous avons fait les unions locales. Et maintenant, quand on sera au Mali, on va faire les fédérations régionales. C'est le cadre intégré qui a fait ça.
Après l'organisation, qu'est-ce qu'ils vous ont appris?
Bon, l'organisation n'est pas totalement finie. Moi, quand même, on n'a pas vraiment à m'apprendre dans la gomme. C'est nous qui apprenons aux autres. Ils ont amené les autres pour qu'on les apprenne.
À deux, ils ont des techniciens qui sillonnent la zone et ils sont venus voir les personnes ressources comme vous, en s'appuyant sur vous. Et
effectivement, sans fausse modestie, j'ai été identifié comme vraiment une personne de ressources. Parce que je connais la filière, je connais le travail de la gomme, et puis je suis là-dedans depuis longtemps, je connais les acteurs, et puis je les ai accompagnés.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on est au début du lancement de l'affaire.
Lancement organisé, on peut dire. Du lancement organisé. Sinon, nous, on est dessus. Moi, je suis dessus depuis 20 ans. Mais il y a d'autres qui sont dedans depuis avant moi.
Donc, ça marche.
Ça marche vraiment, ça marche. Dans tout ça, nous savons que avec cette filière, parmi les jeunes qui meurent dans la mer, on ne verra plus un de la région de Kaï.
C'est-à-dire qu'on va fixer les jeunes au village?
On va fixer les jeunes parce que, par exemple, si vous voyez les naufrages qui sont faits dans la mer, le plus grand nombre de jeunes de la même zone, c'est de notre zone, de la zone de la région de Kaï. Et là, avec cette filière, on ne va plus voir ça. On va permettre aux jeunes de pouvoir avoir de l'argent chez eux, de travailler chez eux, d'être fixés.
Je vous remercie.
Merci bien.
Nous avons commencé notre tour d'horizon avec une femme et nous allons terminer en donnant la parole à une autre femme, Madame Bouré Fanta Guindo, qui est chercheure au laboratoire de technologie alimentaire, laboratoire qui relève de l'Institut d'économie rurale du Mali. Créée en 1970 dans le cadre du Centre régional de recherche agronomique de Sotuba, dans la proche banlieue de Bamako, ce laboratoire de technologie alimentaire s'occupe de l'amélioration et de la mise au point de transformation et de conservation des produits agroalimentaires. C'est le partenaire technique du cadre intégré renforcé.
Le cadre intégré, on collabore avec eux en matière de recherche, parce que même par rapport à l'élaboration de la confiture d'orange qu'ils ont là actuellement au salon, maintenant on a participé à la conception de ce nouveau produit, ils ont développé ce produit au niveau de la technologie alimentaire.
Donc dans un premier temps, vous êtes allé voir comment les femmes travaillent?
On est allé voir comment les femmes travaillent. Là, on a appuyé les femmes par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène et puis de production dans l'unité. On les a appris aussi comment faire les confitures, comment respecter les dosages par rapport au sucre, la quantité de pulpe qu'il faut, les temps de cuisson. On a apporté ces différents appuis conseils.
Elles ne savaient pas tout ça?
Elles savaient tout ça, mais il fallait renforcer aussi leur capacité par rapport à ça.
Donc il y a deux cas de figure. Moi, si je veux commencer, là c'est une formation initiale. Si je suis déjà dans la production, là, c'est ce que vous appelez renforcement des capacités.
Oui, ça, c'est l'accompagnement durant tout le processus. Parce qu'en matière de transformation agroalimentaire, il y a la formation, certes, qui est là, mais il faut accompagner aussi les femmes. Donc, il y a ce suivi accompagnement qui se produit au niveau de l'unité de transformation. Donc, on va sur place, on va encadrer les femmes, on leur montre les bonnes pratiques d'hygiène, on renforce les capacités, on les forme sur ces différents aspects.
Ça veut dire que même si j'ai eu la formation avec vous, quand je vais commencer à travailler, vous serez toujours avec moi.
C'est ce qui est vraiment l'important. Parce que la formation, ça peut durer juste une semaine, deux semaines. Mais le suivi, ça c'est vraiment ça, c'est durant toute l'année, durant des années. Maintenant, en matière aussi de collaboration, on fait les analyses. Donc les analyses de ces différentes confitures se font au niveau du laboratoire de technologie alimentaire. Donc les teneurs en sucre, l'acidité, le pH. Tout ça, on fait ça au niveau du laboratoire. Donc quand ils produisent, maintenant ils viennent vers nous, on fait le contrôle qualité du produit pour voir que le produit au finish est de bonne qualité organoleptique et puis nutritionnelle et puis la qualité aussi, le degré plus le sucre. Oui.
C'est quoi le degré organoleptique?
La qualité organoleptique, ça c'est un peu tout ce qui est couleur, odeur, goût, saveur. Donc ça c'est les propriétés que le client recherche dans le produit. Donc le cadre intégré nous approche par rapport à ça parce que c'est une clientèle qui est assez diversifiée. Il y a la clientèle qui est basée en Afrique aussi, il y a la clientèle qui est basée un peu partout dans le monde. Donc les gens n'ont pas forcément les mêmes attitudes. Donc il y a ce développement de caractéristiques qu'on fait avec le cadre intégré. Donc notamment par rapport à ces séances de dégustation du produit, voir quelle est la couleur, quel est l'arôme, quel est le goût, quelle est la texture du produit.
C'est-à-dire que vous faites des analyses scientifiques, mais aussi des gens pour goûter, des testeurs.
Oui, il y a aussi des testeurs, on fait l'analyse sensorielle. Donc on a un jury de 12 personnes qui sont initiées au sens de dégustation. Donc on fait la dégustation de ces différents produits au niveau du laboratoire.
Vous n'avez pas besoin d'un goûteur là?
Bon, on a besoin d'un goûteur, mais généralement c'est tout un art. C'est pas facile de goûter, donc il y a vraiment des caractéristiques.
Mais vous allez me former?
Il n'y a pas de souci, on peut vous former. Vous êtes là, vous êtes le bienvenu pour vous former.
Mon amour, à la Dianamo, mon hôtel.
C'est-à-dire qu'avant, quand les femmes produisaient de façon artisanale, c'est pour la consommation familiale et pour commercialiser au marché du village. Alors qu'aujourd'hui, vous voulez qu'elles puissent exporter et se faire de l'argent.
Tout à fait, parce qu'auparavant, la production, comme vous l'avez tantôt dit, c'était vraiment au niveau village. Et maintenant, ils n'avaient pas tellement les bonnes caractéristiques, par exemple, du produit même qu'il faut transformer. Là, on les apprend sur ça, la qualité de la matière première. Quels sont les oranges, quels sont les mangues qui doivent être transformées. Donc, on les apprend tout ça, depuis le champ jusqu'au produit fini. Donc, en matière de transformation, quels sont les équipements qu'il faut utiliser pour la transformation? On les montre ça. Quels sont les équipements de mesure, tels que les thermomètres, tels que les réfractomètres, comment les utiliser? On les apprend tout ceci. Et puis, finalement, on vient au produit. Maintenant, le produit qui est transformé, comment le conserver? Comment l'étiqueter? Pour vraiment montrer le marché potentiel qu'a ce produit. Donc les femmes sont, on forme les femmes sur ces différentes technologies, à tous ces différents aspects qui sont là. Dans tout le Mali, on encadre des femmes dans ces différentes technologies, que ce soit la confiture, que ce soit les céréales, que ce soit les produits d'origine animale tels que le lait, le yaourt, le fromage. On forme toutes les femmes dans toute l'étendue du Mali.
Attendez, je vais voir. Il est midi moins 5 et vous parlez de tous ces produits-là, on n'a pas encore mangé.
On va bientôt manger, mais venez au stand et puis venez déguster les produits.
En termes d'autonomisation économique des femmes, est-ce que votre intervention a eu un impact?
De plus en plus au Mali, on voit que les femmes sont là, ils sont en train de créer des entreprises de transformation agroalimentaire, ils sont en train d'employer des jeunes, ils sont en train de créer des emplois, ils sont en train d'avoir des revenus à eux-mêmes. Donc vraiment, je pense que c'est un aspect fondamental quand même de l'intervention de notre institut pour générer des revenus, pour que les femmes puissent se prendre et puis générer des revenus pour elles-mêmes.
Donc la formule marche, ce que vous souhaitez maintenant, c'est avoir les moyens d'étendre ça à plus de femmes.
Beaucoup de femmes ont certes bénéficié, mais il y en a encore beaucoup plus.
Qui n'ont pas bénéficié.
Donc, je pense qu'en mettant beaucoup plus de fonds dans ces programmes d'appui, je pense qu'on peut avoir le maximum de femmes qui peuvent bénéficier de ça, qui peuvent générer des revenus à eux-mêmes.
Et tout le monde connaît les effets bénéfiques de l'autonomisation des femmes pour l'économie des familles.
Oui, tout le monde sait que oui. Généralement, en Afrique, la femme est le pilier de la famille. L'éducation des enfants, le bien-être de la famille, la santé des enfants, tout repose sur la femme. Donc, en créant ces emplois, de ces générations de revenus, la femme parvient à se prendre en charge, parvient à prendre ses enfants en charge, et puis parvient même à les amener à l'école. Donc, ce qui est vraiment important, parce que quand on éduque une femme, on éduque toute la nation.
Mais quand on éduque un homme, il en fait un enjeu de pouvoir.
Oui, ça c'est vrai. Donc, nous, on est en train de mettre vraiment l'accent sur l'autonomisation des femmes.
Je vous remercie.
Ok, merci bien.
Nous étions sur le stand du Mali au Salon international de l'agriculture de Paris, édition 2016, en compagnie des responsables, des partenaires et des bénéficiaires du cadre intégré renforcé, une organisation qui intervient dans 25 pays d'Afrique pour la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.